rencontre. À chaque fois. Ce qui veut dire que si, enfin, si François valide cet enregistrement, que je lui ferai passer en priorité, bien sûr, et si vous le souhaitez, il vous suffit de m'écrire ou de m'appeler, et je vous l'envoie. Voilà. Si vous voulez avoir une trace de la rencontre, ou simplement la transmettre à quelqu'un qui n'a pas pu venir et serait intéressé, c'est possible. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là, et bienvenue dans ce jeudi des boiseries de rentrée, qui se passe un peu de façon inaccoutumée, parce qu'habituellement, le jeudi des boiseries, c'est le deuxième jeudi du mois, mais pour des raisons techniques, celui-ci a été décalé au troisième, la raison technique.
Puis la raison technique.
Rappel pour le prochain, ce sera le 12 octobre, et ce sera une rencontre avec un écrivain, le romancier Dominique Delahaye, qui est auteur de polars, des polars urbains, engagés, etc. C'est un écrivain qui s'est installé à Rouen, qui vient du Havre, mais qui est venu par les voies fluviales jusqu'à nous, parce que c'est un marin, qui habituellement vit sur une péniche. Là, il a quitté sa péniche, il s'est arrimé à Rouen, où il a très vite fait plein de choses. C'est un musicien, illustrateur, enfin, un personnage vraiment intéressant j'espère vous viendrez voir si vous le pouvez, si vous en avez envie. En attendant, ce soir, on a le plaisir de recevoir François Podetti, comédien et metteur en scène. François, bonsoir. Merci d'être là. François Podetti, vous êtes né pendant une année un peu particulière, marquée par des révoltes estudiantines en France, mais pas seulement, en Europe, en Amérique du Nord.
2-3 mois après.
Deux ou trois mois après, vous avez loupé ce
événement. Oui, j'étais encore. J'entendais des choses. Je me disais, tiens, il se passe des choses.
Il se passe vraiment des choses. Au Japon, c'est moi, mais il y a eu aussi des manifestations.
Au Japon, hein,
Des révoltes estudiantines au Japon.
Ouais.
C'est l'année du premier traité c'est l'année du premier traité de non-prolifération des armes nucléaires.
Ouais. Ouais. Bah, j'ai été un peu pour quelque chose.
Oui, tu as tout de suite cherché à.
Les gars, j'arrive.
Il y a eu l'écrasement du printemps de Prague, tu y es pour quelque chose ?
Ouais, aussi.
Vous y êtes pour quelque chose ?
vous voyez. Oui, j'y étais, oui, parce que.
L'assassinat de Martin Luther King.
Ouais, aussi.
Vous avez tout fait. C'est
à peine sorti, hein. Il y avait du boulot.
Ouais. Vous avez le même âge que Daniel Craig.
C'est pas vrai.
Ouais, vous êtes conscrit avec Daniel Craig.
Oh, la classe. Et avec.
Et Axel Red. Axel Red, ce soir, moi.
Mais à la même marque que Tom York, le chanteur de Radiohead.
D'accord.
Et je crois Damon Albarn aussi, le chanteur de. Enfin, le.
Le leader.
Damon Albarn, c'est.
Blur.
Blur.
Hein. D'accord.
Et Marine Le Pen.
Ah oui, d'accord. Vous avez passé votre enfance, votre adolescence à Nanterre.
Oui.
C'est une ville dont on va pas mal parler quand même.
Oui.
Parce que raconté pour vous.
Énormément.
Encore il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Dans un podcast produit il n'y a pas très longtemps, là, parce que vous alliez mettre en scène une pièce, etc., l'intervieweuse vous faisait parler de vos parents.
Ouais.
On peut en parler un petit peu là, notamment de votre maman qui est arménienne, qui nous a quittés, et qui dont vous disiez ça pour vos deux parents, mais notamment votre mère, que c'est vos premiers récits, le contact avec la narration est né un peu aussi avec ces témoignages, avec ces récits de d'où elle venait,
pas d'Arménie, enfin, j'avais pas de ces récits-là, j'avais plutôt les récits, mais de mes deux parents, de leur quartier à Asnières, en région parisienne, ils ont grandi dans le même quartier, ils racontaient beaucoup, l'occupation.
Ah oui,
la guerre.
D'accord.
Et en fait, j'ai des, oui, enfin, ce que je disais, j'ai des images très précises de moments qu'ils ont vécu que je me suis reconstitué parce qu'ils les racontaient régulièrement. Et leur peur d'enfance et leur, enfin, toutes des choses qu'ils ont vécues, dont on, enfin, qu'ont vécu vraiment tout un tas de nos parents à l'époque. Et en y réfléchissant, on se dit mais ils ont vécu des trucs quand même. Enfin, c'est la guerre en Ukraine, quoi. C'est des bombardements. Ils ont vu des bombardements. Ils ont dû aller dans des abris. Ils ont croisé des Allemands, ils entendaient le pas des. Enfin, mon père avait là une DCA au-dessus de chez lui. Enfin, voilà. Et tous ces récits, ouais, j'ai l'impression que c'est mes premiers récits qui ont forgé une sorte d'imaginaire. Enfin, c'est eux qui me donnent leur imaginaire.
Il y a une chose, alors, on est toujours évidemment construit, parfois détruit par ses parents, mais en l'occurrence.
Ouais.
Je me suis dit, bon, votre père, je sais, alors je sais peu de choses, mais je sais qu'il était entraîneur de rugby.
Oui.
Et vous avez fait du rugby
D'ailleurs.
Ah oui.
Ce soir.
Et moi qui vous ai vu jouer et votre présence de comédien, il me semble que c'est aussi lié un peu à cette histoire-là.
Ah, c'est rugby. Possible.
Le côté physique, la confrontation. Il me semble qu'il y a un côté comme qui vient
du rugby. C'est intéressant votre regard. C'est pas facile. Hein.
Vous allez y aller.
C'est intéressant, votre regard de fait, ça, j'y ai jamais pensé.
Ah oui.
À cette présence liée avec ce rugby qui s'inscrit dans mon corps, de toute façon.
Oui, moi je pense que.
Ah ouais, ouais.
Ça vous est jamais apparu, ça ou...
Non, je fais des liens avec le rugby sur les sensations, c'est plutôt l'éloge, le vestiaire. L'avant,
Où
là j'ai des mêmes sensations d'avant un match.
Avant d'aller sur scène.
Ouais.
Ah oui.
J'ai des sensations où je peux faire des correspondances avec des sensations que j'avais avant un match de rugby, ou une sorte de un trac qui monte et en plus au rugby, donc il y avait en plus la peur qui était là de l'affrontement du combat. C'est peut-être ça aussi le combat. Et après, je peux faire des liens, mais ça c'est plus intellectuel, par rapport au jeu et par rapport à l'écoute. Quand on est sur un plateau, quand on fait des exercices, mais quand on est sur un plateau, à l'écoute par rapport à comment se construit le jeu et comment celui qui a la balle et tout le monde se place par rapport à celui qui a la balle, donc la réplique. Mmh. Et comment on se passe la réplique et comment on fait avancer un récit. C'est intellectuel. Ça,
oui,
c'est...
mais il est possible en fait que ce soit vraiment concret.
Le jeu. Avec quand je le fais travailler, c'est un truc que je sais que les gens peuvent. Mais en tant que comédien,
il me semble quoi. Il y a quelque chose dans l'interprétation, les choses que je vous ai vues interpréter, il y a une puissance physique, et il y a une façon d'aller vers l'autre parfois, qui ressemble une manifestation de présence qui est propre au rugby, pour peu que j'en sache. Hein,
vous étiez un très bon demi-mêlé.
Oui, mais là on parle d'un brièvement. j'aurais pu être.
Ouais, bah oui, carrément.
Voilà. Mais vous n'êtes pas rugbyman, mais comédien. Pourquoi ? Peut-être qu'il faut revenir à Nanterre et à vos expériences de spectateur. Parce que Nanterre, c'était pas rien au niveau du théâtre.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça ?
À Nanterre, il y avait le théâtre des Amandiers. Et c'est un endroit qui m'a beaucoup marqué, l'époque de Patrice Chéreau. Mais moi, j'avais déjà commencé le théâtre à ce moment-là. Mais c'était au tout début. J'ai vu des spectacles extraordinaires, les spectacles de Chéreau. J'ai vu ce qu'il y a dans le film Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, où elle parle de l'école des Amandiers. Là, moi, j'étais vraiment jeune spectateur, où j'ai vu leur spectacle dont elle parle dans le film. Les mises en scène de... Je sais plus les noms. Et alors là, c'était vraiment
une école.
J'ai eu la chance de pouvoir aller aux Amandiers. Enfin, on était abonnés avec ma mère. Mmh. Alors là, voilà, ma mère là est très présente parce que on était abonnés. Et même on allait manger là-bas. Ah oui. Moi, j'allais au lycée à côté. Et ma mère et une collègue à elle, une amie, le midi, elle travaillait à Nanterre, elle venait manger aux Amandiers. Je les retrouvais aux Amandiers. Et on voyait Chiro, on les voyait, voilà. Et oui, ça a été important.
Et puis là, oui, c'est vraiment l'excellence, quoi.
Enfin, ah ouais, mais là, c'est le centre du théâtre, le centre européen du théâtre. Enfin, c'est le lieu où les grands metteurs en scène viennent. La mort de Danton, mis en scène par Gruber. La mort de Danton, c'est... voilà,
je peux pas vous
dire. Si. Bon, j'ai vu une chose merveilleuse, quoi. C'est un spectacle, j'ai des images encore.
Et là, vous étiez encore jeune, enfin pas encore comédien à ce moment-là?
Non, je suis...
Vous destiniez à être comédien? Vous pensez à ça? Vous allez vers ça? Comment ça se passe?
Alors, j'avais jamais pensé à être comédien. J'étais même pas envisagé. Le déclic s'est passé au lycée, où est arrivé en première un personnage incroyable, un théâtreux. Il arrivait de province, il était dans notre classe, Laurent Meunier il s'appelait. Il avait vraiment, il était habillé tout en noir, écharpe, mais c'était vraiment le théâtreux, nous on était des banlieusards. Et lui nous a emmenés et il a créé un club théâtre dans le lycée, ce qui était très mal vu à l'époque parce que c'était un peu tous les bras cassés, les cancres, ceux qui sentaient qu'ils n'avaient pas grand chose à faire dans le système scolaire en fait, qui se sont engouffrés là-dedans. Et moi, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, tu vas pas le faire. Et je me suis laissé porter, je sais pas pourquoi. Et j'ai fait, à un moment où ils nous avaient fait des impros, j'ai fait une impro, j'ai crié, alors qu'il était quelqu'un plutôt d'inhibé et un adolescent. Et tout le monde a ri. Et là, j'ai l'impression que c'est une fenêtre qui s'est ouverte comme ça. Et d'un coup, ma vie a changé. Mais j'ai pas pensé à ce moment-là de devenir comédien. Je suis resté un mauvais élève parce que vraiment je supportais pas d'être dans cette façon d'apprendre le monde. Et ensuite, dans ce club théâtre, est arrivée une autre personne qui a été très très importante pour moi. Parce que Laurent est parti et on a repris le club théâtre, on voulait continuer à faire des choses. Et une autre personne est arrivée, qui était le frère d'un des. Et qui était déjà un comédien professionnel et qui nous a pris en main. Et on a monté une compagnie. Une compagnie amateur, on sortait du lycée. Et il nous a appris le théâtre par la bonne façon d'apprendre le théâtre, que après j'ai compris que heureusement qu'il était là au début. Avec la méthode stanislavskienne, enfin le ressenti, la mémoire des choses, enfin une chose pas formelle mais plutôt de l'intérieur. Et en sortant du lycée, comme je savais rien faire. il y a un moment où je me suis dit bon, je vais y aller, mais j'y vais, rien, enfin il n'y a que ça que j'ai envie de faire. Mais c'est pas un truc qui m'a.
Beckett disait. Bon qu'à ça, Beckett disait.
Oui, il y a un côté. Ouais, il y a un côté ça. Puis bon, il y a un côté aussi. Je viens de Nanterre. Il y, y avait d'autres gens pour qui, pour moi, ils étaient plus faits pour devenir comédien.
Et la légitimité.
La légitimité, j'ai mis très très longtemps à la dépasser. Mmh. Et mais bon, voilà, je suis allé après le bac, je suis allé prendre des cours et voilà. Puis après,
les cours, voilà. c'était quoi?
Non, j'ai pris une année, une école à Paris qui s'appelait l'Actéon. J'ai pris une année de cours en fait.
Ça se passe, enfin, ça vous a, vous avez le sentiment d'avoir perdu un an ou...
Non, j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré un très bon ami qui est toujours mon ami. Et après j'ai l'impression d'avoir, j'ai appris des bases, peut-être qui me manquaient parce que des bases plus techniques.
Mm-hmm. Il en faut quand même.
Il en faut. Ouais. Mm-hmm. Mais et puis des textes et tout. Enfin, mais moi, par exemple, par rapport à ceux qui étaient en cours, moi, j'avais déjà joué pas mal, en fait. Et avec cette compagnie, avec ce Jean-Philippe Flaopoulos, on avait monté deux, trois spectacles déjà, donc j'avais joué, j'avais cette expérience-là par rapport à beaucoup de gens du cours qui n'avaient jamais joué de leur vie. Il y a deux metteurs en scène. Et après, nous, on a la chance de pouvoir faire des stages quand on est intermittent du spectacle. Et pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de stages.
Là, après les cours, après le cours à l'Actéon,
ouais.
Vous devenez professionnel, en fait.
Oui, j'ai un contrat.
Vous devenez intermittent, vous êtes intermittent.
J'ai
du
un
spectacle.
Contrat dans l'année qui suit, ah oui. Et qui me fait devenir, où je fais un spectacle pour enfants, pour Whiskas. Et on tourne dans plusieurs villes de France.
Il n'y a pas de sonnerie.
Et c'était un très joli spectacle pour enfants. C'était sur le chat dans la littérature. C'était un événement Whiskas. Et on a fait plusieurs villes comme ça. Et ça m'a permis d'ouvrir mes premiers droits à l'intermittence. Ah, et c'était mes premiers contrats. Mon premier contrat, c'est un petit rôle dans l'École des Marais. Janvier 91. Wow.
Parce que nous, on vous a connu ici à Rouen.
Ouais.
Là à côté. Là. Vous êtes les circonstances de la fille ont fait que vous vous êtes retrouvé dans notre bonne ville de Rouen,
ouais.
Où vous avez commencé un cycle de lecture.
Ouais. Ouais.
Et donc juste moi, voilà, ma question, c'était avant d'arriver à Rouen, qu'est-ce que vous aviez fait? Donc vous avez fait ça.
Pratiquement du théâtre. Du théâtre. Si je fais c'est de la figuration quand je fais des petits trucs. Je fais de la figure. Enfin, mm-hmm. Ouais, je fais que du théâtre. Je travaille en compagnie avec des expériences fabuleuses. Après ce truc, j'ai un moment de creux. Il y a la naissance du gamin.
Le premier.
Après, il y a une tournée en Italie avec. Je passe pratiquement 6 mois en Italie en faisant avec le malade imaginaire où je fais le Argan quand même. C'est 26, 27 ans, ça, c'est
l'histoire. Oui, c'est jeune pour faire le.
Ouais. Mais maintenant j'y pense, mais j'ai quand même fait Argan. Et ensuite, je travaille avec un metteur en scène qui m'a beaucoup apporté, qui s'appelait un auteur metteur en scène, qui s'appelle Joël Beaumont, avec qui j'ai travaillé très longtemps. Et on travaillait sur. Il écrivait avec nos impros, il nous faisait improviser. Et il écrivait par rapport à.
Donc,
on faisait
base,
des grandes impros, et il chopait trop de trucs que moi j'ai refait après. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté sur le rapport à l'art, à la création et des réflexions. Et puis un rapport aussi politique par rapport au projet. Il aimait beaucoup d'être le théâtre au milieu des gens et aller récolter la parole. C'est ce qu'on faisait, on allait récolter la parole pour avoir de la matière aussi.
Alors, il me semble qu'il vous reste quelque chose de ça, quoi.
Oui, complètement.
Dans ce que vous faites encore
récemment. On l'a fait ensemble.
Voilà, on l'a fait ensemble aussi. Je sais pas si on peut parler d'engagement, mais en tout cas, vous n'allez pas n'importe où. En tout cas, oui. Pour le théâtre, vous n'allez pas n'importe où.
Oui, bah là, dernièrement, c'était la MJC de Colombes. On raconte une histoire. On a été voir des gens qui nous ont raconté des histoires de la MJC. Enfin, c'est un travail que j'aime bien faire, puisqu'on a fait à Argelès.
On a travaillé sur Argelès.
Argelès. Et donc, avec Joël, oui, je travaille avec lui. On se rencontre en 97. Jusqu'à ce que j'arrive à Rouen en 2002, où là on fait une pause parce que c'était quelqu'un qui m'a beaucoup heurté mais qui ne me faisait pas du bien.
Oui,
voilà, donc ça a été bien de. Et j'arrive à Rouen en étant un peu en disant mais, voilà,
que faire ici ?
Que faire ici ?
Et vous avez fait. Alors, est-ce que c'était une demande de la part du théâtre ou vous avez proposé ces lectures qui s'appellent les lectures du Dôme ?
Ouais.
On va expliquer pourquoi.
Eh bien, c'est. J'avais rencontré Bernard Saliba, qui était directeur du théâtre. J'avais rencontré en arrivant. Puis, j'étais un peu parlé, enfin. Et ouais, c'était bien passé le courant entre nous. Même si c'était pas un directeur de théâtre, enfin fou, mais humainement, j'aimais bien. Enfin, il a mis en place
des choses.
Ouais, ouais.
Et donc,
c'est lui qui me propose avec un autre comédien,
Lionel Jamon.
Il nous propose un cycle de lecture et de prendre en charge l'atelier du théâtre en 2004.
Ouais.
Ouais. Pour moi, j'étais pas à cette place-là. Moi, le comédien, j'étais que comédien. Et ça, c'est aussi le metteur en scène d'avant, Joël, qui m'avait un peu mis à cette place-là. Mmh. Et pour moi, passer de l'autre côté, de dire je vais monter moi-même des choses, des lectures. Et je vais animer un atelier, c'était usurper une place
qui n'était pas,
pas la mienne. Mmh. Et en fait, oui, pour moi, Rouen, ça a été extraordinaire. Ça a débloqué beaucoup de choses de chez moi, dans la place que je pouvais prendre comme créateur, comme artiste. Ouais. Alors que pour moi, j'étais pas encore.
Pas ce niveau-là, ou en tout cas. Enfin,
ouais.
Comme s'il y avait un seuil, mais
oui,
en réalité, c'est juste un autre travail, une autre approche.
Mais il y a quand même deux stages qui ont été très importants. Un stage avec un metteur en scène qui s'appelle Sylvain Maurice, qui était un travail sur le clown. Et un stage avec un metteur en scène de Lyon qui s'appelle Bruno Messa, qui travaille là plutôt, c'est un théâtre. Très contemporain et plus proche, très proche de l'art contemporain. Et les deux, en fait, travaillaient sur le vide et sur l'impro. Et dans des endroits différents, le clown et la création. Et ces deux stages, mais ça, c'est en 2003 que je le fais.
Oui, juste avant de venir.
Ouais, même après, je suis là déjà, mais. Et ces deux stages m'ont ouvert à prendre le risque à ouvrir l'imaginaire et à découvrir que j'avais beaucoup de choses à dire ou que quand des choses sortaient, en fait elles pouvaient être intéressantes pour les autres, chose que je m'interdisais avant. Donc ces deux stages ont été vraiment très importants et je crois que c'est ce qui a commencé à ouvrir le travail sur le vide et donc le travail vers le parcours de création qu'on a retrouvé après les reflets qu'on avait sur peindre qu'on a fait ensemble.
Oui.
Et surtout même le travail avec Messa est important pour comprendre pour savoir comment ça fonctionne à l'intérieur pour ouvrir vers la création et commencer à. C'est le début du parcours, je dirais. Mm-hmm. C'est la porte qui s'ouvre vers le parcours de créateur.
Oui.
Et donc après arrivent les lectures. Et dans les lectures, je commence à mettre en place ce parcours-là, en fait.
Alors, j'aimerais bien qu'on parle du rapport au texte. Quelque chose qui vient de m'apparaître, là, c'est qu'avec Joël Beaumont,
oui,
c'est ça.
Ouais.
Comédien, vous êtes au service du texte.
Ouais.
Et là, les lectures, vous prenez en charge le texte,
ouais,
et vous utilisez le texte.
Oui.
Presque comme si le rapport s'inversait.
Ouais.
Donc, vous allez lire Sade, Ponge un peu plus tard, mais
ouais,
Dante, bien sûr, ouais, Sandras.
La première, c'est Boris Vian.
Boris Vian, je ne l'avais pas noté.
Ouais.
Sénèque,
ouais,
j'avais beaucoup aimé Sénèque. Ouais. Seul ou pas, ou avec
oui,
quelqu'un.
Oui, je faisais souvent venir quelqu'un.
Danny Larms, je ne sais pas si, ouais, quelqu'un, si vous connaissez Danny Larms,
ouais,
par question qui a tout lu.
Mais, donc, je me suis resservi il n'y a pas longtemps, Danny.
Ouais. Ouais. Et bon, si vous ne connaissez pas, découvrez.
Ouais.
Voilà. Alors, quel lecteur vous êtes? Comment ce lecteur... Est-ce que là, à partir du moment où vous avez en charge les lectures du Dôme... lecture du Dôme, pourquoi? Parce qu'au Théâtre de Rouen, dans ce beau bâtiment 19e, très empire comme ça, il y a... à l'arrière, deux structures en dôme, deux tours avec des dômes couverts d'ardoises, et les lectures se font sous un de ces dômes,
ouais,
un lieu à la fois restreint et très beau,
ouais,
enfin, voilà, sous la charpente, c'est magnifique,
avec
un lieu idéal pour une acoustique particulière, ouais, et c'est idéal pour la lecture.
Ah, c'était magnifique.
Voilà.
Ouais.
Voilà
et qu'on pouvait utiliser de façon différente,
moduler, etc. Ouais. Donc voilà pourquoi lecture du dôme. Et donc est-ce que là, quand vous avez ça en charge, est-ce que à partir de ce moment-là, vos lectures sont plus studieuses, c'est-à-dire que vous lisez plus en lecteur pour le plaisir, mais en lecteur ayant en tête de choisir des textes pour vos lectures? Et comment on choisit un texte?
Le premier programme, j'ai vraiment pensé qu'est-ce que j'ai envie de. Quels sont les auteurs que j'ai envie de partager. Donc, donc je me rappelle, il y avait Vian, il y avait Jules Verne, il y avait, oui, De Staël, il y avait les lettres de De Staël, il y avait Simenon. La première année, ah, je ne sais plus. Je voulais partager des auteurs. Et après, je ne peux pas dire...
Ah, c'était des auteurs que vous connaissiez.
Oui, voilà. Que
vous les aimiez, vous aviez envie de les faire partager.
Voilà.
Et après...
Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si je cherchais des auteurs en me disant, tiens, je pourrais le faire en lecture. J'attendais plutôt des rencontres. En fait, peut-être revenons à la façon que j'ai eu de travailler les lectures, et je pense que tout le travail se faisait comme ça en général. En fait, je laissais beaucoup de place au hasard. Par exemple, quand je décidais de faire sur un auteur ou sur un livre, je lisais, je travaillais, puis je prenais ça, je veux lire, ça je pourrais lire, ça. Et je prenais plein d'endroits comme ça où j'ai dit ça, je pourrais lire ça. Et après, dedans, je me disais, pourquoi j'ai choisi ça? Et donc, je me disais, tiens, en plus, il y avait vraiment un travail de découpage en plus, ce qui était très important.
Oui, je voulais qu'on.
Et je me disais, mais pourquoi j'ai choisi ça? Qu'est-ce qu'au fond, qu'est-ce que chez moi? Mais ça, c'est lié aussi au travail sur le vide, aussi avant. Qu'est-ce qui chez moi a percuté ou a résonné avec ces choix que j'ai faits? Et j'essayais de trouver un chemin, en fait, en disant, mais en fait, tiens, mais je crois que j'ai envie de dire ça. Donc il y avait une volonté de dire quelque chose, mais une volonté d'être ouvert à soi pour comprendre, mais qu'est-ce qu'au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire avec ce texte? Après, s'il y avait des choses plus claires, quoi. Enfin, bah oui, j'ai fait les textes de Jean Hatzfeld sur le génocide rwandais. Là, je savais, je voulais parler du génocide arménien. C'est ça qui, enfin, des choses que je savais d'avance. Mais souvent, voilà. Et donc, dans les choix des programmes que je faisais, je ne me mettais pas à lire plein de choses pour trouver des...
D'accord, oui.
J'attendais un peu en me disant, mais ça, c'est évident. Ça, il faut que je le fasse l'année prochaine. Comme à un moment, je me suis dit, Dante, on va... J'ai trois lectures, on va faire les trois de Dante.
Voilà. L'enfer, le purgatoire et le paradis.
Voilà.
Un beau défi.
Ouais, mais on l'a fait.
Enfin, moi,
ouais, je sais, c'est pas vous avez fait ça.
Oui, un sacré défi parce que je voulais en venir justement au cut-up, au découpage à l'intérieur de.
Ouais.
Parce que là, on est d'accord qu'on est dans des monuments, quoi. Autant l'enfer, je pense que on s'en sort parce que tout est tellement inspirant,
génial, c'est un récit épique.
Le purgatoire, ça va encore, c'est un peu plus compliqué.
Ouais.
Le paradis, c'est l'enfer.
Ouais.
Mais
il y a un côté un peu.
Comment vous avez vous dépatouillé de cette matière-là, notamment pour le paradis.
Alors, le paradis, j'ai un souvenir lointain, mais vous vous souvenez, j'ai un côté un peu flippant de ce monde éthéré où tout est. Alors, c'est une sorte de c'est presque oppressant, quoi.
Ouais.
Et je me rappelle, je me dis, mais dans le dôme, j'avais choisi, je vais mettre dans un coin. Et je vais le faire dans un coin. Comme si j'étais oppressé par ce monde. Et en même temps, c'est quand même assez.
C'est très très lumineux.
Ah, c'est lumineux, voilà. Beaucoup de lumière. Exactement.
Il y a beaucoup de lumière.
La lumière fait mal aux yeux.
On progresse jusqu'à l'éblouissement.
Ouais, l'éblouissement complet.
Et d'ailleurs, au niveau littéraire, c'est assez prodigieux parce on commence, il y a déjà de la lumière et on progresse vers toujours plus de lumière. Quand on voit on se dit, il faut avoir un certain vocabulaire
Pour aller au bout de.
Quand on a écrit rayon, lumière, éclat, éblouissement,
Et puis les chants, ils chantent tout le monde chante.
Il y a des processions un peu absurdes.
Un peu fou.
C'est baroque.
Il y avait même quelque chose.
Moi, j'ai pensé à la douleur d'accoucher de ce.
Vous l'aviez.
J'étais là.
Ouais.
Je crois même que il fallait que Virgile passe le relais, il ne franchit pas.
Ah, c'est au purgatoire.
C'est au purgatoire.
Ouais, qui passe le relais à Béatrice.
Ah oui.
Et c'est Béatrice qui l'amène.
On est encore au purgatoire.
Ouais. Ah bon, c'est génial. L'arrivée de Béatrice. Mais ça, c'est génial avec la Divine Comédie, c'est qu'il y a des moments, même dans l'enfer, il y a des moments de comédie. Et l'arrivée de Béatrice, elle lui dit, mais elle l'engueule, quoi. Elle lui dit, mais toi, t'as fait des trucs, mon petit gars. Et il est là, excuse-moi, Béatrice, c'est vrai que j'ai pas été hyper fidèle. Mais c'est drôle, il y a un chat, quoi.
Oui, voilà, les processions,
Il y a Béatrice. Moi, c'est beau.
Voilà, donc
l'enfer.
Et l'enfer.
C'est quand même bien éclaté sur l'enfer.
Oui, on l'a fait.
On raconte l'enfer quand même.
Vas-y.
Allez-y. S'il vous plaît. Où vous croyez-vous? Monsieur Chavassieux. on avait décidé de le faire à la.
Dans la bibliothèque. Parce que j'y travaillais.
Oui, voilà. À la bibliothèque du musée. Et en fait, on avait pensé que c'était deux gars qui s'endormaient
dans la bibliothèque. Sur les vieux livres.
Et tout d'un coup.
Qui rêvaient l'enfer.
Et tout d'un coup, il y en a un qui se mettait à se réveiller comme ça. Puis l'autre sur. On tournait autour de la. En fait, l'enfer, on tournait autour. Il y a même un peu. À un moment, il y avait un grand radiateur qui était Gérion.
C'est Gérion, la créature sur laquelle Virgile et Dante
montent
les chevaux, qui s'envolent, etc. Et on chevauchait un énorme, les énormes radiateurs de la bibliothèque.
Et à la fin, le truc avec le
diable.
Le perroquet. On avait des lampes de poche. Il y avait des lampes de poche qui faisaient la lumière.
Et le diable, c'était un porte-manteau accroché comme ça, et ça faisait.
Et en l'éclairant avec une lampe de poche, il y avait une ombre. sur le plafond qui faisait des cornes comme ça. Enfin, c'était le diable, quoi. Oh non, mais là, c'était bien.
C'était bien.
Et voilà.
Et le texte est quand même.
Bon, c'est vrai. Et à la fin, alors ça, c'est souvent la fin, on oublie de le dire, mais il passe par le.
Par le trou du cul.
Par le trou du cul.
Enfin, il est avalé. Ils sont avalés.
Ouais.
Par le diable et ils sortent par le trou du cul.
Ouais.
Et ils se retrouvent au purgatoire. Enfin, ils passent.
Pas tout de suite. Pas... Non, sur un bord de machin. Et après, parce que le purgatoire, c'est un truc, un cône qui monte.
Oui. Et il commence. C'est des cercles aussi. Ouais.
Enfin, ouais. Et voilà. Tout ça pour parler de le trou du cul. Tu reconnais bien.
Et des trous du cul, enfin, dans l'enfer. Alors on en a connu, mais honnêtement, dans l'enfer, il y a un passage assez fameux où il y a un diable qui joue de la trompette avec son cul. Ça fait partie des petites joyeusetés, des petites surprises drôles.
Mais ce qu'il y a beaucoup dans les églises. Hein.
Dans les églises romanes, il y a des choses un peu grossières. Sur les images, les gargouilles.
Ouais.
On va revenir juste au métier de comédien, vraiment. Parce que vous avez joué dans des compagnies, vous avez joué dans Ondine, le roi des Ondins, dans Scarpin, dans les fourberies de Scarpin, pardon, Argante.
Ouais.
Alors Argante, c'est un des vieux, c'est un des pères.
Un des deux pères.
Et c'est celui qui dit quelle est la différence entre
les deux. Non, c'est l'autre.
D'accord.
C'est l'autre.
Et puis Créon, dans une adaptation d'Antigone. Alors c'est pas vraiment Antigone, c'est nos Antigones.
Oui, c'est une adaptation.
La différence, c'est quoi enfin...
Ah bah c'est une adaptation complète avec. Un mélange de plusieurs Antigones, c'était donc Sandrine Gréaume, la metteuse en scène, et qui a fait ce travail-là. Un mélange d'Antigones de
antique et Giraudoux.
Oui, Giraudoux, il y a du Brecht, il y a du Hölderlin.
Ah oui.
Ouais, et une deuxième partie, c'est une écriture, là, de son écriture de. D'Antigone actuel possible.
Alors c'est intéressant parce que je voulais vous interroger sur le personnage. Donc là vous interprétez Créon.
Oui.
Du coup c'est pas seulement le Créon d'une Antigone, c'est des crayons différents.
En fait c'est un peu un crayon. C'est un peu
une boîte de crayons.
Alors là c'est là.
Ouais.
C'est moi j'avais.
Revenons.
Mais voilà. Mais bravo, elle est morte, non, elle est formidable.
Donc comment on aborde un rôle
l'idée, parce qu'après il y a les crayons d'après, c'est plutôt j'ai beaucoup de discours politiques où elle s'inspirait des discours actuels, des discours de Macron ou d'Edouard Philippe, et un discours de Valls. Donc en fait, c'est plutôt un crayon image du patriarcat, image de l'homme de 50 ans blanc qui impose sa vision du monde aux autres et qui dit c'est moi qui dirige, donc c'est moi qui voilà, enfin on peut pas faire autrement. Et l'idée c'est que de la pièce, c'est du spectacle, c'est que celui-là au bout d'un moment lui dit c'est bon, tu nous as assez pourri la vie. Depuis des années, tu vas laisser la place maintenant. C'est un peu l'idée. Et donc, oui, le crayon, le crayon que j'ai, c'est pas un crayon psychologique. Je suis pas allé dans le psychologique du rapport. Si j'ai une scène, la scène avec Antigone, le parcours dans le spectacle est pas assez. Psychologique,
oui, d'accord.
Pour créer,
pour aller là, quoi.
C'est plutôt en fait, j'ai même un immense discours qui est dans le Antigone de Sophocle. En fait, c'est histoire de faire un lien entre les discours et
une permanence du, enfin, puisqu'on est sur le sujet du patriarcat.
Donc ouais.
C'est en fait, c'est une silhouette significative.
Oui,
c'est
voilà.
Un type.
Et l'idée qu'on a eue avec le metteur en scène, c'est pas d'en faire un gars violent ou enfin bon, quand même à des moments où il tend les choses, ce qui devient. Mais plutôt sur l'idée de j'ai le pouvoir, il faut que je l'assume, je peux pas faire autrement.
Oui, il y a des choses désagréables, mais
ouais, mais quand on a le pouvoir, on doit aller comme ça et. Et c'est nous les hommes qui avons le pouvoir, donc on est obligé de faire ça. Ouais. Et presque, même à un moment, on voulait aller vers beaucoup de. Mais même sur les discours, un truc à très macronien, d'être dans la grande bienveillance.
Ah oui.
Une grande bienveillance qui dit des choses dégueulasses, mais avec beaucoup de bienveillance et de l'humanité. Donc, moi aussi, mais voilà.
Ça me rappelle un personnage d'une pièce qui s'appelle Pasiphae. Il y a un roi Minos
qui est plutôt sympa, des fois.
Qui est plutôt sympa, qui fait des discours plutôt bienveillants.
Ouais, voilà.
Et oui,
voilà.
Au peuple en disant il va falloir vous passer de viande.
Ouais.
D'ailleurs, la viande n'est pas si bonne que ça pour la santé.
Oui, ça ne sert à rien.
Manger plutôt des salsifis, on voilà. Produit beaucoup de salsifis.
Donc, on peut
manger des salsifis.
ouais, mais exactement.
Et pour. Vous avez travaillé, joué et mis en scène une pièce qui s'appelle Peindre.
Oui.
Et justement, donc il y a un personnage, c'est un peintre, qui s'appelle Pourbus. Référence, voilà. Comment vous avez abordé ce personnage-là?
Pourbus, qui est un personnage né de l'imagination d'un très grand auteur.
Oui, je ne sais plus qui, mais.
Il habite dans le coin.
C'est compliqué parce que vous mettiez en scène.
Voilà. Et avec Christian Chavassieux, donc c'est top. On était beaucoup dans une réflexion aussi de. Et donc, on l'avait pas mal. Il y a des choses. Oui, j'ai pas l'impression d'avoir construit un personnage. Comme c'était un travail aussi de recherche de tous les deux, je pense que j'y ai mis plutôt des choses de moi. Puis il y avait quelques souvenirs aussi. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir créé un personnage de Pourbus. Je sais pas quel souvenir vous en avez. Mais c'est plutôt une mise à poil.
Il y a un détail tout simple. Quand vous êtes arrivé pour travailler là sur, vous étiez pas sur Juan, vous étiez arrivé sur Juan pour travailler sur cette pièce.
Ouais.
Un détail tout bête, la coiffure. Vous étiez allé chez le coiffeur.
Ouais.
Et la coupe de cheveux était très simple, mais c'était Pourbus.
Ah oui. Ouais.
Ouais. Vous avez fait couper les cheveux d'une certaine manière. Ben, je me souviens de l'anecdote parce que j'ai dit ah ouais bien c'est lui là. Et vous m'aviez expliqué que la coiffeuse allait continuer. Vous avez dit non stop c'est lui.
Ah oui,
là ça va. Je suis là. Ouais. Et donc c'est un détail mais ça participe quand même un peu d'une construction de personnage. Il faut aller vers là quoi.
Oui.
Et
parce qu'en fait, je crois que au fond, j'aime pas l'idée de construction de personnage.
Ça vous arrive pas, ça? Et quand vous bossez sur un, disons un classique, par exemple.
Oui, mais c'est peut-être narcissique, je sais pas, mais moi, j'essaie vraiment de faire partir le personnage de moi et de voir où le texte fait dire à ce personnage et déjà. Ce que le texte fait dire au personnage, c'est le personnage. Et après, je vais peut-être rajouter des petites choses, mais je vais pas faire quelque chose d'extérieur pour créer. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à voir, que ce soit au cinéma ou au théâtre.
Ah oui, quand on voit.
Quand on voit quelqu'un qui a fait. Enfin, les Américains le font, ça. Ils contrent, ils changent le truc, ils font. En gros, c'est un autre. Physiquement, ils changent, ça. Quand moi, je vois ça, ça me sort un peu déjà du. Moi, je préfère quelqu'un.
Vous voyez l'effort.
Pour moi, la référence, c'est Dutron dans Van Gogh.
Oui, d'accord.
C'est Dutron. Et je vois Van Gogh. Et je me dis que Van Gogh, il doit être comme ça. Enfin, j'y crois complètement.
Ouais,
voilà.
Ouais. Un naturalisme.
Ouais, mais quelque chose de déjà de justesse, d'une grande justesse, d'être juste avec ce qui se passe là où ça travaille au fond.
Alors là, la référence c'est le cinéma. Donc vous avez fait du cinéma, de la télé, etc. On y reviendra peut-être, mais théâtre, cinéma, télé, etc. Le jeu d'un comédien. Comment est-ce que des choses est-ce que c'est un autre métier? Est-ce que c'est le même métier?
Bon, c'est une autre façon de faire le métier. Pour moi, ouais, c'est toujours le même métier. Mais le jeu est pas le même. Au théâtre et au cinéma, la justesse des émotions, mais pas des émotions, la justesse du présent est pour moi est importante, que ce soit au théâtre et bien sûr de toute façon devant la caméra, mais même au théâtre, alors qu'au théâtre on a besoin d'envoyer, voilà, on a des positions à prendre pour être vu, pour être clair, mais ce que je demande souvent aux comédiens, ce que j'essaie de faire, c'est d'être dans une émotion juste, mais d'être dans une vérité du moment de la pièce, d'enjeu, de ce qu'on est dans la vie, c'est-à-dire que dans la vie, c'est un moment qui fait que tout d'un coup, par rapport à telle personne ou telle personne, on a des enjeux, on a des choses, et on est dans le présent du moment. Et c'est comme ce qu'on dit sur peindre, sur le jeu de l'enfant qui, quand il joue avec ses petits soldats, il est devant Austerlitz. Voilà,
je cassais rien, donc. Est-ce qu'on avait prévu une petite. Alors il y avait un extrait maintenant si vous l'avez monologue d'en peindre.
Ah oui.
On peut peut-être le réparer ça.
Ou...
C'est bon. Est-ce qu'il faut un peu de contexte?
Allez-y.
Ouais, donc c'est c'est avant la fin. Ça amène, c'est un monologue qui amène vers la fin de la pièce. Ça c'est une version qui a été réécrite pour une nouvelle version avec d'autres options. Ouais. Donc c'est pas le texte que certains d'entre vous ont pu voir sur scène au théâtre. C'est plus court. Le contexte c'est comment expliquer ça? Non, c'est inexplicable. c'est un moment où à bout d'interrogations et d'expérience sur Pourbus est un peintre installé. Pour lui, ça va. Financièrement, etc., au niveau de la reconnaissance, etc., de l'appréciation, c'est calé, c'est bon. Il n'a plus rien à prouver, ça roule pour lui. Après, il n'empêche que lui, il a encore peut-être des interrogations, des choses à régler, notamment avec son passé, avec une femme qu'il a connue, etc., dont il s'est séparé, et curieusement, c'est après cette séparation qu'il est passé à l'abstraction. Et c'est un peintre abstrait, très reconnu, etc., qui explore le blanc,
voilà.
Donc le vide, etc. Ses réflexions sont incarnées en quelque sorte par un personnage féminin. Mais on s'était dit, c'est une pièce où les rôles pouvaient s'inverser. Le personnage qui apparaît pouvait être masculin, le peintre pouvait être une peintre, c'était pas un problème. Ce personnage s'appelle E, vient le titiller comme ça, lui. Et un écho de ses réflexions, mais qu'on peut entendre puisqu'elles sont proférées par un personnage. Là, on est au moment où il y a quelque chose qui cède.
C'est juste avant.
Avant que ça cède,
ouais.
il se débarrasse de. Il cherche à se débarrasser de plein de choses. Ouais. Tout déboule comme ça.
Ouais.
Et déboule en lui et il fait le. Fait le vide justement autour de lui avant qu'il y ait un déclic qui lui fasse comprendre ce qu'il doit faire, comment changer, comment passer.
On s'était rendu compte que dans peindre, passer,
Même il était question si,
le rire du limier.
Le rire du limier, il était question du
sacrifice,
passage
et de renaissance.
Voilà. Ouais. Ouais. Donc c'est un monologue qui est voilà qui est dit souvent avec beaucoup de qui vient enfin il y a d'autres il y a des voix off etc. On peut pas vous le faire là. Ouais. Voilà c'est du, donc je sais pas si vous voulez bien.
Silence, ce silence, mon silence. Laissez la tête sous le lit, jouez, jouez. N'entrez pas dans ma chambre, fermez cette porte, fermez, éteignez, débranchez. S'il vous plaît, faites silence. Faites silence dans la rue, respectez mon travail. Comment voulez-vous que j'avance si vous m'interrompez tout le temps, si vous venez voir ce que je fais? Vous voulez quoi? Vous voulez des preuves? Être certain que j'en ai bien bavé? Que j'ai éprouvé une souffrance inconnue de vous? Que j'ai dévoilé un mystère inaccessible aux autres? Même pas. Je suis désespérément banal. Aucune question à se poser. On n'en finirait pas. On peut y aller comme ça. Revenir sur le métier jour après jour, planter son petit rituel sans plus d'inquiétude, simplement comme tout le monde depuis l'origine. C'est pas compliqué. Je suis comme tout le monde. Pas plus de pourquoi et de comment que les autres. Pas plus je bosse, je joue. Voilà. Comme tout le monde. Comme tous. La tête sous le couperet. Pas plus renseigné que les autres. C'est mieux, c'est différent. Un type qui barbouille, un bout de tissu. Je vois pas ce qui peut fasciner là-dedans. Hein. Pas plus de questions que... Simplement, j'y suis. La gorge sous la lame, j'y suis. J'ai toujours été là. Là, comme ça. J'en avais des centaines. Les silhouettes, les jambes, les ombres, les reflets de lumière sur le parquet, les tabliers, tout le blanc, la joue collée au sol, les grandes jambes, la tête qui patiente. Mon père qui entre et sa grosse voix, toi, d'abord, vers le couperet. Toi, débarrasse le plancher, laisse-moi, j'ai du travail. Il n'y a rien à voir, rien à considérer. On y va tous. Les enfants, oust, laissez-moi travailler. Allez dire à vos parents, allez leur dire que ce feignant de peintre est en plein boulot. Il y va comme eux, comme vous. On y va juste, on a juste à tendre le cou, on y va tous. Avec des bras, des cheveux, des pieds qui sentent. Tu parles d'un héros, tu parles d'un modèle. Peindre. Quelle pitié d'être tous pareils, quelle déception. Tenez, un pinceau, allez-y. Voyez, rien de magique, pas de lumière, pas de science qui dise la forme du couperet. Vous croyez que c'est dans le geste, dans les tripes, dans les chagrins, les souffrances, les joies, vous croyez que c'est là ou là? Je vais te dire... C'est nulle part. On ne sait jamais d'où ça vient, pourquoi moi j'entends et pas les autres. J'entends, personne d'autre. Elle se moquait de moi.
Bon, on bouge. Merci. En fait, faut peut-être juste parler de la genèse de la pièce peindre,
ouais.
Où on était allé voir des peintres, justement, des artistes. Donc Catherine Chanteloup qui était là,
ouais.
qui est venue ici, pour leur demander d'où ça venait.
Ouais.
Et en fait, personne ne savait.
Ouais.
Ça restitue un petit peu ça. C'est, on est artiste, on est écrivain, on est peintre, on est,
ouais.
Mais on est comédien. Et d'où ça vient,
d'où ça vient.
Pourquoi vous êtes comédien et pas moi? Pourquoi,
ouais.
Voilà.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que...
qu'on a envie de
cette chose
qu'on a envie de mettre un truc sur la toile,
ouais.
Blanche,
ouais. Alors tout le monde peut le faire,
ouais.
Mais il y en a qui le font,
ouais.
Il y en a qui le font pas, voilà.
Et rappeler avant pas, vous m'aviez posé la question,
ouais.
Alors ça vient d'où?
Ouais, ça vient d'où?
Et mais peut-être qu'à l'époque j'étais très marqué par ça, mais pour moi ça, j'ai parlé de la mort et il y a un rapport à la mort, à la... Ouais.
Pourquoi créer? Pourquoi dans,
ouais.
La création? Parce que vous allez mourir.
Ouais, parce qu'on va mourir. Mm. Et que, bah, c'est normal.
Voilà.
Ouais. Voilà.
Alors, il s'agit pas de moi du tout. À quoi est-ce qu'on... C'est quoi un bon texte de théâtre? Quand vous lisez un texte et vous dites, ça, j'aurais le plaisir à le mettre en scène, à le jouer.
Oula.
Alors de théâtre ou un bon texte à jouer, ouais, pour un comédien, lire, ouais. Pour un comédien, à quel moment ça se, on se dit ah ouais, ça j'ai.
Alors moi je, ouais, je, peut-être par exemple, voilà, je pense que j'ai mieux fonctionné par exemple. Mmh. J'ai monté avec des amateurs, mais qui sont très, des textes, des deux Tchekhov, les deux pièces en un acte de Tchekhov, L'ours et la nonne en mariage, qui sont montées par tout le monde, tout le temps, surtout les compagnies amateurs, c'était facile à faire. C'est, et là, par exemple, c'est la traduction de Markovitch, où je me suis dit, mais il y a. Il donne aux comédiens l'envie de. Il ne fait pas le truc à la russe, ou, enfin, très français, qui fait du Tchekhov très littéraire, ou pas très drôle. Et là, il essaye de. Il met, je sais pas,
du plaisir,
ou du. Il sent que. Comme s'il sent que chez le comédien, il allait y avoir du plaisir à dire le texte. Et je pense que c'est le cas de Molière, je pense que c'est le cas de Shakespeare et de Tchekhov. Et chez Molière, on sent que c'est un comédien, quoi. Qu'il écrit pas. Il écrit pour le jeu. Et c'est là où c'est extraordinaire. Où ça s'étudie littérairement, c'est des pièces qui parlent de tout, où il y a des couches et des couches et des sous-textes, et c'est pour ça que c'est des grands auteurs, parce que mais quand on les lit, ou que ce soit Shakespeare, quand c'est bien traduit, et Tchekhov, c'est un peu les trois, c'est écrit pour être joué. Je suis sûr que ils écrivaient, ils avaient leur troupe. Et ils écrivaient pour des comédiens.
Pour
que ça soit joué. Mmh, mmh. Et que. Voilà. Et peut-être qu'il a dit. Oui, je sais qu'il y a des auteurs où c'est très beau, je vois pas. Par exemple, Ondine de Giraudoux. Il y avait des moments, j'ai découvert à quel point c'était très 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 bien écrit, c'était magnifique, mais des fois c'est des phrases, c'est de la poésie, alors c'est un bonheur de lire de la poésie. Quoi qu'il y a des endroits, il y a des moments, mais si, quand même, il y a des moments chez Giraudoux, ça joue pas mal, ça. Mais je crois que c'est ça, moi, qui fait mon choix. Par exemple, à Shakespeare, les Shakespeare traduits par François Victor Hugo, c'est un peu, enfin, j'aurais pas envie de les jouer, je cherche une autre traduction, et quand on parle, quand on entend Tchekhov en russe, ça vit, c'est bam 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 bam, ça se passe, c'est des comédies, ça. Et ça se sent même dans les écritures de scénarios, où tu te dis, oui, vous dites,
non mais vous pouvez le tutoyer vous-même.
Oui, c'est vrai.
Vous avez le droit. Là,
je me vous vois. François, vous voulez. tu te dis, mais ils écrivent pour la chaîne. Ils écrivent pour, mais ils écrivent pas pour le comédien. Enfin, ils se disent pas, il y a un comédien qui va jouer ce texte, parce que la phrase est mal foutue, il y a deux mots ensemble qui sont super durs à dire, et puis surtout, ça veut rien dire, et c'est très très con à dire, et j'ai rien à jouer là-dedans.
Je me souviens, une fois, on était ensemble, vous aviez fait un casting,
ouais,
pour une,
ouais,
série,
ouais.
Et c'était un interrogatoire police,
ouais,
et c'est vrai qu'à la lecture,
et on voit le téléfilm, François.
Imbitable. Ouais. C'est imbitable.
Ouais.
C'est nul.
Ouais. Ouais.
Là, on voit que personne ne peut avoir du plaisir à jouer ça.
Et vraiment, ils écrivent pas pour les comédiens, pour le plaisir de faire jouer deux êtres humains ensemble et de monter une histoire. Des gens qui... Non, ils écrivent pour que la chaîne, elle dise, ah oui, c'est bien, ça va, ça nous va.
Au contraire, en plus.
Voilà.
On va parler de mise en scène, puis après je vous passerai la parole si vous avez des questions à poser. Vous avez joué pour des metteurs en scène, notamment des grands, je pense à Pierre Vincent.
Jean-Pierre Vincent. J'ai pas joué pour Jean-Pierre, Pierre Vincent.
Ah, c'est Pierre Vincent. Ah oui, et le grand, c'est Jean-Pierre.
Ouais, voilà. Non, vraiment, le top de mes deux en scène que j'ai fait, c'est Deborah Warner à Chaillot avec on était beaucoup, avec le Jules César, avec des pointures anglaises, dont Voldemort.
Ah oui,
Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes, ouais, d'accord.
Qui était d'une gentillesse et d'un. Enfin, c'est bon. Alors, travailler avec les Anglais, c'était fantastique.
Ouais, ouais.
Voilà.
Et je me demandais comment ces expériences-là avaient influé sur vous, votre travail de metteur en scène. Il y a des choses que vous avez captées, apprises, oui, forcément, mais principalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ces expériences-là, qui sont que vous avez pu mettre en pratique
Comme je vous ai dit, c'est plutôt des travaux de recherche qui m'ont et de penser du travail. Après, des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, qui montaient des spectacles, en fait, je dois avouer que
parce que en fait, vous avez appris la comédie, le jeu, etc., cours, etc. Et puis la mise en scène, finalement, vous ne l'avez pas tellement appris. Vous avez appris vous-même.
Quoi. Voilà.
Enfin, vous êtes un autodidacte.
Oui, complètement.
Ouais,
j'ai pas fait d'assistant, j'ai jamais été assistant metteur en scène. J'ai fait un peu mon chemin tout seul. Et mes premières grosse mise en scène, c'était avec vous
pour la compagnie Mule.
Pour l'Imule. Et alors, non, c'est plutôt par rapport à des spectacles que j'ai vus. Je savais, par exemple, pour l'Imule, et même pour après, mais beaucoup pour l'Imule, j'avais vu les spectacles de Joël Pomara, qui m'avait beaucoup marqué.
Qui était un Rouennais aussi, au passage.
C'est pas vrai.
D'origine rouennaise.
C'est pas vrai, je ne savais pas du tout. Et qui fait un travail sur le son, sur la lumière, et. Il y avait beaucoup de David Lynch aussi. Par contre, j'ai beaucoup de cinéma, quand même,
cinéma.
Comme référence, souvent. Peut-être plus même que le théâtre.
Le théâtre,
et la peinture. Ouais. Mais au fait, j'ai eu comme si avec l'IMU, peindre et Pasiphae, je faisais ma recherche avec vous.
Une chose que j'ai compris, c'est que une mise en scène, ça bouge aussi.
Oui.
Alors, moi, j'avais en exemple Peter Brook, grand metteur en scène de théâtre, notamment, mais pas seulement, qui, paraît-il, chaque soir après la présentation, les comédiens ne partent pas, restent sur le plateau, et il leur fait retravailler des choses qu'il a repérées, qu'il a vues, etc.
Ouais.
Quand moi je vous ai vu travailler, j'ai vu les comédiens travailler et tout ça, l'état d'épuisement où vous êtes à la fin de la pièce, je me dis, il faut encore rester pour retravailler et pour rebosser, ça devait être terrible. Et paraît-il que même jusqu'à avant la dernière représentation, ils faisaient encore travailler des choses à ces comédiens, etc. Mais voilà, une mise en scène, ça bouge, c'est vivant quand même.
Mais alors, c'est du spectacle vivant. Et mais moi aussi j'aime bien que ça bouge, que ça évolue, qu'on raconte même presque des fois pas la même chose, ce qui s'est passé sur Pasiphae.
Oui, à partir du même texte.
Voilà, on a
des choses.
Une nouvelle comédienne a apporté autre chose.
Oui, c'était une autre pièce.
Et ça a raconté autre chose de la relation Minos-Pasiphae. Et voilà. Et moi, oui, alors moi par contre j'aime beaucoup ça. Bon, il y en a qui détestent ça, qui veulent, qui aiment bien que leur mise en scène soit
Oui, ils l'ont pensé longtemps, ils veulent qu'elle soit, ça bouge plus après. Voilà,
j'ai eu des soucis, moi, avec un metteur en scène pour ça. Mais moi, je préfère laisser les comédiens, je préfère laisser vivre le spectacle, qu'il aille où il veut. Enfin, voilà, la mise en scène, c'est comme si on mettait les choses, le cadre en place, et après, il faut que ça vive, quoi. Oui. Tant que sa vie, c'est voilà.
Alors, on parlait de Pacifae et il y a bien sûr plusieurs scènes dans Pacifae. Il y en a une. Vous jouiez avec donc un autre comédien qui s'appelle François Frappier. Vous jouiez le roi Minos et François Frappier jouait Dédale. Et il y a une scène. Alors, on va se permettre. Alors, on vous l'interprète pas. Moi, notamment, je suis évidemment incapable. Mais on va vous la lire. Et cette scène, je vous ai vu la jouer plusieurs fois. Et vous la possédiez tellement bien que chaque séance, chaque représentation était différente.
Ah, oui.
Et vous alliez à chaque fois avec le même texte exactement, les mêmes conditions, etc., vers des endroits différents. C'était pour vous un plaisir, et pour le spectateur aussi, enfin celui qui a la chance de voir plusieurs.
Mais c'est un peu le Et il y a des metteurs en scène qui n'aiment pas ça, mais c'est un peu le on se dit on est dans le présent.
C'est vivant,
on ne sait pas ce qu'on va faire, et on retrouve de la vie tout le temps. C'est quand même, le but, c'est d'essayer de retrouver de la vie.
La vie à chaque fois.
Ouais.
Donc là, c'est une scène entre Dédale et Minos. Pacifae, la pièce raconte. Ce moment de la mythologie où la reine de Crète, l'épouse de Minos, décide de s'accoupler avec un taureau, des étrangetés de la mythologie grecque, et elle accouchera plus tard du Minotaure, d'un hybride qui est le Minotaure. C'est une vision moderne, enfin en tout cas revisitée du mythe, où le taureau est offert par un prince qui est invité,
El Mamouchi,
le prince de Sablurie. Et normalement, ce taureau, Minos a promis à son peuple qui est affamé de le sacrifier pour qu'il puisse manger de la viande. Mais il est tellement beau, ce taureau, qu'il hésite. Et pendant ce temps, Dédale fait ce qu'il a à faire, c'est l'ingénieur, c'est aussi peut-être le manipulateur. Il fabrique ce qui doit servir dans les scènes suivantes. Alors, la nuit, l'été, fenêtres ouvertes, dehors, le taureau dort. À l'intérieur, Dédale veille. Il bricole quelque chose, note sur un papier, tape sur une calculette. Minos surgit en robe de chambre, victime lui aussi d'une insomnie.
Ah!
Du mal à dormir?
Ouais. Vous aussi, on dirait.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Vous êtes insomniaque?
Oui. Depuis longtemps. C'est comme ça. Asseyez-vous, je vous en prie.
Depuis longtemps?
Oui, depuis longtemps. Vous voulez quelque chose?
Non, ça va. Bien, attendez. Vous ne prendriez pas un petit alcool avec moi?
À 7h? Vous croyez?
Il y a quelque chose ici.
Je regarde.
Il se lève et cherche.
Vous avez des soucis, monsieur?
Vous restez éveillé comme ça chaque nuit? Toute la nuit?
Chaque nuit, depuis, disons, une vingtaine d'années. Je dors quelques heures tout de même.
Il trouve une bouteille qu'il tend à Minos.
J'ai trouvé ça.
C'est pas vrai. La racine de cèdre fermentée.
Oui. Enfin, pas la même que notre amie très fermentée, celle-là. Fermentée jusqu'au dernier degré de fermentation, forcément avec un peu de sucre. On obtient de l'alcool fort.
Ah, je savais pas. Merci, un fond seulement. Je vais d'abord goûter.
C'est plus prudent. Silence. Dehors, le ronflement du taureau.
Vraiment, quel cadeau.
Il aspire une gorgée prudente. Madame va bien?
Pardon?
Excuse-moi. excusez-moi, certains matins, je la trouve fatiguée. Je devrais peut-être diffuser l'hymne plus tard, la laisser dormir encore. On pourrait peut-être même éviter de la réveiller, comme ça. C'est un peu brutal, je trouve. Regardez, dans 4 heures, il va falloir que j'envoie la fanfare, que je vous sorte du lit, que je me mette au garde à vous.
Dites, ce qui vous prend des dalles, c'est la loi, je vous signale. Et puis je suis aussi attentif que vous à la santé de ma femme, qu'est-ce que ça veut dire?
Bruit de défécation du taureau dehors.
Ah, oh, quel cadeau, non mais quel cadeau.
Madame le trouve très beau.
Et alors, moi aussi je le trouve très beau. Très grand, très sale, très coûteux, mais très beau.
Nouveau bruit de défécation et mugissement de satisfaction. Je vais fermer les fenêtres.
Merci, oui. Qu'est-ce que vous faisiez?
Je m'amuse à dessiner, je calcule. Je profite de mes insomnies pour créer des machines.
À la vôtre.
Ils boivent en silence.
Pacifique. C'est quoi ça comme machine?
Un hachoir. Un grand hachoir.
Donc un hachoir. Pourquoi faire? Des dalles désignent l'extérieur. Non.
C'était prévu, il faudra bien.
J'avais oublié.
On l'a promis au peuple.
Ouais, bon, ça va. On. D'abord, on, c'est qui, hein? C'est moi, on. J'ai promis au peuple. Moi, Minos, j'ai promis, je tiendrai parole, c'est bon. On va l'abattre, on va le débiter, et après, ils le boufferont, oui, il y en aura pour tout le monde. En plus, il aura un bon goût de cèdre, de racine de cèdre. Voilà, et d'abord, elle est prête, votre machine?
Pas tout à fait.
Eh bien alors, qu'est-ce que vous me serinez avec votre taureau, votre hachoir, votre promesse?
Votre promesse?
Ma promesse? Ma parole des dalles, vous perdez les pédales? Ça frise l'insubordination, ce genre de répartie. Attention, hein, je peux... Oh putain, c'est costaud la racine de cèdre.
Ça monte vite, c'est la cèdre.
Oh. Bien. Je vais aller me coucher, j'ai un petit coup de barre.
Bonne nuit, mon résident.
C'est ça. Bonne nuit. À tout à l'heure. Vous m'agacez des fois, Dédale. À être malin, comme ça, la plus malin que tout le monde. Vous devriez rester à votre place, vous savez, je n'ai cramé pour moi que ça.
Ça ne se reproduira plus, monsieur le résident. Je suis à votre service et au service de madame.
Ouais. C'est écrit comme ça dans le contrat, effectivement.
Je m'excuse, monsieur.
Bon. Retourne me coucher.
À tout à l'heure. Voilà. Bon, la mise en scène, c'est. J'ai l'impression que vous vous destinez plutôt à ça maintenant. Enfin, vous n'oubliez pas le métier de comédien, bien sûr, mais. C'est quelque chose qui vous mobilise davantage. Peut-être des coïncidences, mais.
J'ai pas de plan.
Plus à ça, non?
Et oui. J'ai pas de plan, et oui. En fait, je m'aperçois que j'en fais beaucoup. J'y trouve beaucoup de plaisir. Enfin, la création, en général, ce qu'on a fait à Argelès, là, sur les textes, de mettre en place...
Entre la lecture, la mise en scène...
Oui, enfin, c'était un peu une mise en voix, quoi. J'ai l'impression que je... Les choses... Comme si j'avais... C'est comme le personnage, en fait. J'ai pas l'impression... Je construis
ça,
pas.
Ça se construit pas, oui. Ça,
les choses arrivent et, parce qu'elles doivent arriver. Et j'ai plutôt l'impression de me laisser porter par les choses. En plus, c'est vraiment un métier où on a des hasards, on a des coups de fil, on a des choses au bout de fou. On dit, bah ok, on y va. Donc j'ai... En fait, j'ai l'impression de me laisser porter comme en même temps je décide de faire des choses. Enfin, c'est un ensemble, et c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait plutôt beaucoup de mise en scène, mais dans lesquels j'ai joué, quoi. Je peux pas abandonner le fait de jouer. Mais c'est vrai que la dernière chose que j'ai faite là, à la MJC de Colombes, je me disais, en plus j'ai écrit aussi avec un ami le texte, et je me disais, mais j'arrive pas à prendre le texte. comme je l'ai écrit, j'ai l'impression de le connaître, mais en fait je ne le connais pas. Et que, en fait, j'ai commencé à apprendre le texte 2 jours avant. Où, bon, c'était pas énorme, hein, mais j'étais vraiment dans la réalisation. J'étais dans la réalisation. Et le jeu est venu, vraiment, j'y ai pensé 2 jours avant, enfin, vraiment, même la veille presque. Donc,
comme s'il n'y avait pas de connexion entre. Enfin, comme bah si c'était deux choses très différentes. Quoi.
Bah en fait, comme si et pareil pour Slutchai, ce que j'ai fait sur le Tchekhov, j'arrivais pas à prendre le texte. Je n'arrivais pas à prendre le texte. J'étais dans la réalisation, puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, faut y aller maintenant parce que je joue dans 10 jours. Quoi. Et comme si la réalisation prenait vraiment toute la place et me remplissait de plus en plus, peut-être. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de ça qui est en train de se produire, mais j'aime tellement jouer quand même que... Oh non, c'est... Non, ouais. Je veux jouer. Non, c'est trop marrant.
Est-ce que vous avez des questions? Figé comme ça. Voilà, alors on a très peu, vous aurez remarqué, on a très peu parlé de télévision. Enfin c'est vrai que beaucoup de gens vous connaissent plutôt parce que vous avez participé à des séries télé, il y en a qui sont très connues.
Oui, alors, j'ai pas eu des.
Voilà, vous avez des petits rôles, mais quand même sur une série assez originale qui s'appelle HeroCorp, qui a connu 3 saisons.
5.
5 saisons. J'ai pas tout vu. 5 saisons, déjà c'est assez exceptionnel. Ah, c'est vrai, 5 saisons. Ouais. Et vous avez un personnage là qui c'est une série qui a eu enfin qui est très originale,
ouais.
Qui a été écrite réalisée par Simon Astier et vous avez un personnage qui prend de l'épaisseur et de l'ampleur au fil des saisons.
Oui.
Au début il est un peu anecdotique.
Oui, puis, enfin, il est un peu à l'ouest.
Il est un peu à l'ouest. Ouais. Enfin, ils sont tous un peu à l'ouest.
Oui, oui, oui. Mais lui,
et c'est une vision assez. Enfin, à l'origine, enfin, dans la première saison, parodique,
oui.
Vraiment parodique, sur. C'est des super-héros à la française.
Oui.
Ils habitent. Ils ont tous plus ou moins perdu leur pouvoir, ou au moins leur pouvoir est très très diminué. Et c'est des espèces de. De bras cassés qui vivent dans un petit village retiré de France, de la campagne, etc. Ils sont tous là.
Ouais.
Ils vivent leur petite vie de communauté,
à la retraite.
Vous êtes un ancien acid man qui est devenu capitaine shampoing, qui balance du shampoing, qui ne pique même pas les yeux, c'est du shampoing doux.
Voilà.
Donc absolument inefficace.
Ouais.
Voilà. Ils ont tous des pouvoirs plus ou moins ridicules.
Ouais.
Voilà. Et c'est Simon Astier s'est pris au jeu un petit peu, enfin, des choses de plus en plus sérieuses, je sais pas, mais de moins en moins parodiques et son univers est devenu plus trapu avec le temps.
Mais c'est ce qu'il voulait faire au départ, hein. Et comme la première saison c'était Comédie, la chaîne Comédie qui la commandait, qui la payait, et la chaîne Comédie voulait faire du comique. Donc, il a essayé dans la première saison de commencer à faire un embryon d'histoire qui allait se développer, mais comme il fallait du comique, il y a des épisodes où il se passe rien. Mais en plus, c'est un peu, ils sont un peu 20 minutes quand même, où il y a que, enfin, c'est un peu des gags. Mais lui, c'est ce qu'il vraiment voulait faire au départ. Donc, petit à petit, il a réussi à amener la série tout en gardant son côté potache. Vers quelque chose de plus grave, son personnage à lui, qui était au milieu de le bien et du mal, et qu'à travers son personnage, la série, il tue son père à un moment, spoil. Mais au départ, je pense que c'est plus son projet.
Et c'est une série qui est très populaire, qui est une série culte.
Pour certains, il y a des fans. Il y a des vrais fans. Ouais, ouais.
Qui se costument,
qui venaient faire dans les conventions.
Oui, les conventions.
Qui venaient faire des, sorte de cosplay avec une panoplie. Oui, il y avait tout un univers comme ça de gens qui ont soutenu beaucoup la série, parce qu'elle s'est arrêtée après la deuxième saison.
Oui, il y a eu ce phénomène-là.
Il y a eu tout un phénomène de fans qui ont sauvé
la série.
Oui, c'est ça, vraiment.
C'est quand même assez c'est rare.
Et le téléchargement. Parce que la série, c'est... alors que Simon était horrifié de le dire. Mais en fait, moi, le téléchargement a... Fait que comme les gens n'avaient pas comédie, et les gens s'en parlaient, et ça se propageait, et les gens la téléchargeaient. Et donc, à un moment, France Télé, il y a Alain Carazé qui a été très important aussi, le pape de la série, qui nous aimait beaucoup au début. Ils ont décidé de faire une nuit, deux nuits de suite, sur France 4, où ils mettaient les deux saisons. Ils se sont rendus compte qu'à 3h du mat, il y avait 100 000, il y avait du monde. Et là, ils se sont dit, il s'est passé quelque chose.
Il y a un phénomène.
Et donc après, France Télé a décidé d'y retourner. Et donc on a tourné la saison 3. Et après, il y a un truc incroyable. On était dans les grandes conventions.
Des conventions.
Non, à Paris. Et à Japan Expo, c'est à Japan Expo. Et on devait être présenté dans une grande salle, et on nous avait dit, donc c'était la sortie de la troisième saison, il y aura peut-être 2000, 3000 personnes, ça va être. Et en fait, Iliade était là. Il y avait, je crois, 13 000 personnes. D'après. Et là on a vu à quel point la série avait s'était propagée c'était assez formidable
Parce que les amateurs du genre sont un peu sevrés en France parce que de ce genre de production il n'y en a pas quoi.
Ailleurs
d'ailleurs il n'y a pas de choses très tout à fait vraiment
Le fumer fait tousser ça m'a pas mal rappelé
un film très bien, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez eu envie de dire, une question que je ne vous ai pas posée, chose que vous auriez eu envie de transmettre en conclusion de cette rencontre?
Continuons le chemin. Parce que c'est quand même, ça donne des bonnes vies quand même, malgré tout.
Malgré tout, c'est pas toujours facile.
C'est des chemins, ça donne des vies riches de rencontres et de création. Donc allons-y quoi.
Allons-y. Merci.
Voilà.
Merci à vous.
Merci.